Bon, la question de Raphaël, où se trouve le Tserara? Où se cache-t-il? Alors, il ne se cache pas, il est très présent. La question est... Il y a différents Tserara. On divise les Tserara en deux grandes différents Tserara. Il y a le Tserara qui est physique. Et tu as autre chose qui s'appelle Ruach HaTumah. C'est l'esprit de Tumah, d'impureté. Qu'on appelle le Sitrara, l'autre côté. C'est-à-dire au niveau métaphysique, Dieu a créé le bien et le mal, et tu as des forces spirituelles de mal. Extrêmement puissantes, extrêmement dangereuses, il ne faut pas jouer avec elles. Parce que quelqu'un veut monter trop vite, il n'est pas suffisamment construit. Alors il peut avoir du fil à retordre avec le grand Yetzer du mal, tu comprends? On voit des histoires de grands Sadikim qui, le Gaon de Vilna, voulu venir en terre d'Israël, on sait qu'il n'est pas venu. Des fois, le Yetzer, le grand Sitracha, le côté du mal, il empêche. Il fait des choses grandioses dans le monde pour empêcher la Kedusha de vaincre. Le veau d'or. C'est... La Kedusha, elle est là.
Mais c'est pas une entité indépendante comme le chrétien voit le diable, un anti-dieu.
Anti-dieu, mais créé par Dieu. C'est-à-dire que Dieu a laissé. C'est intéressant parce que dans les tfilines, vous tous avez des poils qui sortent. Dans le tfilin de Rachis, c'est entre le premier et le deuxième bâtiment de la tête, des poils qui sortent. Et c'est marqué que ces poils rappellent le veau d'or. Veau d'or, en fait, c'est l'archétype du mal, d'accord? C'est lorsque Bnei Israël sont arrivés au Mont Sinaï, ils ont reçu la Torah, le mal était éliminé. On était revenu à l'état antécédent du péché originel du premier homme au paradis. Parce que le mal, on va dire, il était exorcisé, il est sorti hors de nous. Parce qu'Azoramatam, c'est la Gemara, Shabbat Kufnunvav, le venin du serpent a été annulé. Le serpent, il est encore là, mais il est extérieur. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils l'ont rendu intérieur. Au paradis, avant le péché originel, le serpent était là, mais extérieur. Ils l'ont écouté, ils ont consommé du fruit interdit, donc venu intérieur. Au don de la Torah, extérieur. Ce serpent-là, c'est de lui qu'on parle, il est revenu, c'est lui qui a fait le veau d'or. Il a incité les Juifs à faire le veau d'or, mais il leur a fait un cinéma terrible. Ils ont vu le lit avec le cercle de Moshe Rabbeinu voler dans les airs, ils ont vu le monde tout obscur. Il y a eu des scènes terribles.
La première chose qu'ils ont envie de faire, c'est faire un veau d'or. Personnellement, je ne sais pas, j'aurais pensé à autre chose.
Donc il a interdit que tu reposes autre chose plutôt que de faire un veau d'or. Alors, dans les visions prophétiques, ou dans la mystique, je me souviens, je crois que dans la mystique juive, on parle d'apparition de pieds de veau. D'accord? Au niveau prophétique, au niveau de l'image, tu sais que Dieu a parlé avec des images, c'est marqué que sur la mer Rouge, il apparaît comme un cavalier sur son cheval. Au Mont Sinaï, il apparaît et comme un char tibour, un ministre officiant entouré de son talit. Alors c'est le même Dieu, mais Dieu agit par des biais différents. Et quand il parle avec les prophètes, à part Moshe Rabbeinu, c'est la seule exception, Moshe Rabbeinu, c'est marqué Panim el Panim Adaberbo. Face à face, je lui parle. Parce que lui, il voit pas Dieu vraiment, mais c'est pas avec des images. Lo Bechida lo Machal, c'est marqué. Ni avec Rida, ni avec énigme, ni avec Machal, ni avec exemple. C'est le seul niveau, le seul être qui a réussi au monde à arriver à parler directement avec Dieu, c'est Moshe Rabbeinu. Tous les autres prophètes, c'est en rêve ou en crise de. Ils sont envoûtés comme ça et ils voient une image. Et cette image, ils comprennent quel est le sens de l'image. Mais ils ne voient pas la réalité telle. Ça doit passer par une énigme, par une image. Alors dans les prophéties, on parle d'une image où on voit des pieds de veau. Alors, les Israël qui ont vu Dieu au Mont Sinaï, c'est-à-dire qu'ils ont vu une image prophétique de la divinité, ils auraient vu des pieds de veau. Alors ils ont construit le reste du veau.
Ça ne peut pas nous parler, parce que les Israël de l'idolâtrie, il n'existe plus.
Alors, oui, mais néanmoins aujourd'hui, le mal, il existe. Donc ce mal a fait, c'est une puissance de mal très puissante dans le monde. Hitler réussit à faire ce qu'il a fait, à galvaniser tout à coup 50 millions d'Allemands et les rendre maboules en quelques années et faire ce qu'il a fait, c'est pas comme ça, c'est pas un homme tout seul qui se lève et qui fait. Il est poussé par des forces de mal terribles, c'est certain. Tu vois qu'il y a des mouvements dans le monde, le Staline, ou aujourd'hui la débauche dans le monde, c'est pas tout à coup. Par hasard, les choses se font. C'est certain qu'il y a ici une force négative très forte. Alors tu me dis maintenant, est-ce que c'est, comme chez les chrétiens, l'antidieu, c'est-à-dire une sorte d'identité satellite, enfin, elle fait ce qu'il veut un peu. Oui et non. Alors je commence à expliquer sur les tefilines. Donc, après le don de la Torah Mont Sinaï, le mal, c'est en fait le veau d'or. C'est lorsque le béni s'est refait le veau d'or, c'est comme s'ils ont refait le péché originel. Tout ce qui a été réparé a été de nouveau cassé, il fallait tout le même travail refaire de nouveau. C'est à l'époque messianique, où quand le Messie se dévoile, là on arrive à de nouveau matin de Torah. De nouveau, la même situation de l'homme avant le péché originel, dans lequel il est propre de tout péché. Le mal sera encore là, mais très peu, comme avant le péché originel. Et là, il y aura aussi une promesse que c'est fini, il ne pourra plus nous avoir, c'est terminé. C'est-à-dire, au Mont Sinaï, il était là, mais on peut encore retomber. On est retombé. Alors tu me diras, alors maintenant ma chair viendra, on va remonter, on va encore retomber, et de nouveau on est parti pour un exil et des histoires. Non, là il y a une promesse que c'est vraiment terminé. Pourquoi est-ce qu'on met un cheveu dans la tefiline qui représente le veau d'or? Parce que le cheveu, c'est exactement ce qui correspond au mal, au niveau de la sainteté, d'où le mal sort. Il n'y a pas, c'est marqué, dans Dieu, il n'y a pas de mal. L'oego chara n'habite pas le mal en toi. Dans Dieu, c'est l'absolu, le bien parfait. C'est impossible qu'il y ait du mal. Mais de la perfection, Dieu veut créer le mal. On a déjà expliqué souvent, il est nécessaire pour que Dieu puisse donner le cadeau le plus parfait qu'il puisse être à l'humanité, c'est-à-dire lui-même, qu'il crée l'être. Un être, pour être par lui-même, doit avoir le choix. S'il n'y a pas de libre arbitre, il n'est pas. Il n'est qu'un robot. Pour avoir libre arbitre, il faut bien et mal. Maintenant, il n'y a pas de mal en Dieu. D'où il vient? C'est comme le poil. Le poil, le cheveu, d'accord, prend un morceau de... N'importe quel membre. Tu piques, tu coupes, tu sens. Prends un cheveu, tu coupes, tu sens rien. Alors, est-ce que le cheveu, il est mort ou il est vivant? C'est un mort vivant. C'est un mort qui vient d'une source vivante. Le mal, c'est la mort. La définition du mal, c'est la mort. Ce qui n'est pas. Ce qui est mensonge. C'est quoi un mensonge? C'est dire à propos d'une chose qui n'est pas, qu'elle est. Je suis Rothschild. Enchanté. C'est faux. C'est une chose qui est morte, qui est... Donc, n'est pas signifie mort. Donc, si vous me croyez, vous accordez la crédibilité à ce que je dis, vous me prenez vraiment pour Rothschild, alors vous donnez de la vie au mensonge. Ça fait le mal. Donner réalité à une chose qui n'a aucune réalité. Ça, c'est le mal. C'est ce que le premier homme a fait. Lorsque le serpent vient, il leur raconte des histoires, Dieu est jaloux de vous, et si vous pouvez manger du fruit interdit, vous serez comme des dieux, connaître la naissance du bien et du mal, etc. Ils ont donné foi à ce que dit le serpent. En donnant foi, c'est exactement ça. Ils ont réalité au mensonge. Dès lors, il n'y aura plus vrai et faux. Avant le péché originel, c'était l'homme faisait que la distinction entre vrai et faux. Après le péché originel, il fait distinction entre bon et mauvais. Bon et mauvais. Mal et bien. Mal signifie donner réalité à une chose qui n'est pas. Donc, le cheveu, il est exactement la symbolique, il correspond à la tête. La partie, nous, les tefilines que nous portons, c'est vraiment à l'image de Dieu. La chose la plus haute qu'il y a dans la divinité que nous connaissons, c'est la volonté. La volonté, chez nous aussi, la volonté. Avant la pensée, avant l'expression, avant l'acte, la chose la plus haute qu'il y a, qui vient de là, de l'endroit des tefilines, c'est la volonté. Donc, à l'endroit de la volonté de Dieu, parce que nous sommes à l'image de Dieu, c'est marqué que Dieu lui-même met les tefilines, mais sur son imagée, c'est-à-dire qu'il y a une volonté. Noir, parce que c'est caché. Finissons noir, c'est caché, et ça descend. La volonté, elle s'exprime, elle descend dans tous les mondes supérieurs. Donc, à la base la plus haute, à la tête, là-bas, il y a le cheveu. Ça veut dire, dans le tefilin lui-même, impossible. Dans la cloucha, la sainteté, il n'y a pas de mal. Mais de la sainteté aussi va sortir une chose qui n'a pas de vie en soi. de cheveux. Il est mort. Mais à sa source, il est quand même relié, rattaché à la vie. Il est impossible qu'il y ait une entité de mal qui soit autonome. Non. C'est de Dieu que ça sort. Mais quand elle sort de Dieu, c'est encore bien. On ne peut pas dire qu'il y a du mal qui sort. Après, quand ça descend de monde en monde, ça se dévoile en tant que mal. Mais la source du mal, elle est bien. Comme on dit Chazal, lorsque Dieu a créé le monde, il a dit « Hine tov me'od ». Voici, c'est très bien. Tov, c'est bien. Me'od, c'est très. Chazal, on dit « Tov, c'est le Yetzer HaTov, le bon penchant, me'od, le Yetzer HaRa ». Le mauvais penchant, c'est très bien. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de Yetzer HaRa, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas du barbite, il n'y a pas du barbite, il n'y a pas d'être, il n'y a plus rien. Il n'y a que le bien, il n'y a que Dieu lui-même est terminé. Donc il y a une entité qui est extrêmement puissante, qui a sa source dans la divinité, on va dire juste au sortir de la divinité, et qui est là. Ça, c'est le Sitrach. Maintenant, nous, on n'a pas grand-chose à faire. Si tout le peuple d'Israël fonctionne en Kudusha, etc., alors il ne peut pas trop rentrer. On est protégé. Mais si on fait des bêtises, alors on donne de notre force à lui, et il a encore plus de force. Ce qu'on dit Chazal, tant que la voix de Yaakov retentit dans les yeshivot, les mains ne sont pas celles d'Esav. Esav, c'est l'archétype du mal, d'accord? L'ange du mal s'appelle l'ange des Dômes, le mal. Son sutra, c'est le petit-fils de Esav, c'est Amalek. Amalek. Réchit Goïm Amalek. Le premier des peuples, c'est Amalek. Il est premier, comme le peuple d'Israël est appelé Réchit. Il y a deux peuples qui sont appelés Réchit, Israël et Amalek. Parce que ces deux sont véhicules. Nous sommes véhicules de la Kdusha, du bien, et lui est véhicule du mal. L'empire du mal. Hitler. Hitler, il dit, je veux un Reich de 1000 ans. Un Reich, c'est-à-dire un royaume de 1000 ans éternel, du mal, le monde entier. Et c'est très clair que Hitler, c'est Amalek. Il y a une conférence entière là-dessus, dans les séminaires.
Je comprends que Hitler soit le mal. Mais Hitler était battu par Staline. J'ai du mal à voir en Staline un ange du bien.
Staline, mais il est mal aussi. Alors, c'est la question de Michael et Ishmael et tous les autres. Alors, Amalek, c'est marqué très clairement, il est dispersé dans tous les peuples. Partout. T'en as partout. Baou Hachem, ça manque pas. Et ils font des enfants et des petits-enfants, ils se multiplient. D'accord? Ça manque pas. Quelqu'un qui a une haine viscérale, anormale du juif, et par ricochet, d'accord, je vous reprends. D'où on voit cela, c'est un Télim 137, on dit « Anarot Bavel » sur les fleuves de Bavel, de Babylonie. « Sham yashanu gambachenu » Là-bas, nous étions assis et nous pleurions. Quoi? On a pleuré la destruction du temple. C'est donc qu'on parle de destruction du premier temple. Quand les Juifs sont allés au bord du fleuve de Babylone, donc au bord de l'Euphrate, ils ont pleuré la destruction du temple, au premier temple, moins 586. D'après certains comptes, on ne sait pas exactement quand c'était, mais d'après l'historien, on dit que c'est moins 586. Nabucodonosor déporte tous les Juifs en Babylonie. Continue le Tehillim, et il dit « Zechor Hashem livne Edom » Souviens-toi, Dieu des fils d'Edom. À Omrim, qui disait « Aru, Aru, détruisez, détruisez, adesodba jusqu'à la base. » Et dit Srazal, lorsque les soldats de Nabucodonosor sont venus, ils ont détruit le temple. Les Iduméens, Edom, c'est qui? Amalek. Edom, c'est Esav, sa descendance, c'est Amalek. Ils ne suffisent pas de détruire. Détruire jusqu'à la base. On veut complètement déraciner. Or, on sait bien que Nabucodonosor, Bavel, ça a rien à voir avec Edom. C'est pas Amalek. Il y a Amalek, c'est un peuple, c'est Edom. Et t'as Nabucodonosor, c'est les Irakiens. Comment ça se fait que lors des sessions du temple, Anarot Bavel sur les fleuves de Babylonie en Euphrate, là-bas, les Iduméens, Bnei Edom, ils parlent. Où est le rapport? Edom, c'est les Romains. C'est beaucoup plus tard, 500 ans plus tard. Réponse, Amalek dispersé parmi tous les peuples. T'en as là, t'en as là, t'en as là, t'en as là, un peu partout. Donc, cette force de mal, elle est depuis le début. Nous sommes appelés Réchit. Réchit, Tvuato. Un verset dans Yeshayahu, qui dit le peuple d'Israël, c'est Réchit, la première récolte de Dieu. Et Amalek est appelé Réchit. C'est les deux véhicules. Réchit, Goïm Amalek, Vacharito, Adéoved. Le début des peuples, Amalek, Acharito à la fin, Adéoved disparaîtra. Il y a une promesse qu'à la fin, le mal disparaît. Ce n'est pas évident, c'est une promesse. Parce que nos yeux ne voient pas comme ça. Mais on sait qu'à la fin, toute l'histoire, il est avec nous. Donc c'est une force spirituelle qui se repose sur un véhicule de personnes, des gens foncièrement méchants, antisémites. Et la liste ne manque pas. Tu mets tous les mecs tous là-bas, c'est tous le même cru.
Mais j'essaie de comprendre Hitler, qui incarne Amalek dans cette génération, la génération du XXe siècle.
Lui et d'autres.
C'est parce qu'il succombe à son Yetzer Hara qu'il est Amalek, ou c'est une entité, un ange maléfique qui vient. Parce que on a une version, on peut comprendre que le Yetzer Hara, pour nous-mêmes, pour chacun d'entre nous, c'est un trait de caractère, je crois que c'est ce que dit aussi le Rambam. Pour d'autres, c'est une entité, cette entité, elle devient Amalek. Est-ce que Hitler, il succombe à son Yetzer Hara qui est du même nature que le nôtre? Ou est-ce que c'est quelque chose d'une autre nature, c'est-à-dire un ange maléfique?
Non, c'est comme, prenons dans la Kedusha, quelqu'un maintenant, il a une grande neshama, il a un grand potentiel. Est-ce qu'il va forcément réaliser son potentiel en bien? Pas forcément, il a un libre arbitre. Une neshama Amalek, elle a un grand fort potentiel de mal. Elle n'est pas forcément, elle doit aller faire le mal. Elle a un potentiel. Maintenant, si elle comprend qu'il ne faut pas tuer, c'est pas gentil, ça ne se fait pas. Et puis, il y a un peuple qui a droit à la vie aussi. Et puis, Dieu existe. Il peut être un homme normal, tout à fait bien. Pas. Par rapport à tous les Amalécites qu'il y a dans le monde, il y en a très peu qui ont, comme ça, tout à coup, éclos et fait leur dégât. Il y a beaucoup d'Amalek latents qui sont là. Et eux, ils peuvent être des gens qui ont l'air très bien, en tout cas. Ils le sont, pour le moment. Ils ont ça en potentiel.
Pourquoi les
Amalécites,
ils sont entre eux? Pourquoi Saïd a battu Hitler, alors que si les deux sont vraiment Amalek?
Bon,
ça c'est... Pourquoi Khamenei s'est battu avec Saddam Hussein? C'était vraiment Amalek. Ils ont dû s'allier.
D'habitude, lorsque Dieu veut détruire le mal, alors il les laisse se détruire l'un l'autre. Très bientôt, nous aurons droit à Gog ou Magog. Gog ou Magog, c'est la guerre apocalyptique de la fin des temps, dans laquelle ma chère se dévoile, et tous les peuples viennent du Nord contre nous. Tous, Gog ou Magog, valeur numérique 70. Même ceux qui ne seront pas là seront d'accord, l'ONU dira absolument, nous voulons pour l'intervention internationale sur Israël. Enfin, je ne sais pas comment ça sera exactement, mais ça sera union de tous les peuples contre nous. Dans l'unité. Ils font tous la paix entre eux, ils viennent contre nous. Et comment a lieu leur déconfiture? Alors, dans les prophéties de Yéhézkel 38, c'est marqué qu'ils vont commencer tout à coup à tirer le glaive l'un contre l'autre. Ils vont commencer à faire la guerre là, l'un contre l'autre. C'est normal. Le mal, il veut pas. Le mal dans sa racine, c'est quoi le mal? Le mal, c'est toujours le anti-Dieu, d'accord? Dieu, c'est le don. Le mal, c'est ne pas donner. Ne pas donner au niveau optimal, c'est le meurtre. Ça, c'est Esav. Achabecha teri, tu vivras par ton épée. C'est celui qui est prêt à tuer l'autre pour lui-même. Il est prêt à tuer Yaakov pour que lui puisse exister. Alors, tu mets maintenant deux personnes qui sont mauvaises ensemble. Alors, s'ils font la paix entre eux, c'est parce que chacun pense qu'il pourrait y gagner beaucoup. Mais plus on s'approche du résultat, plus l'autre me dérange. Rabbi Yonah Eibschitz, vous connaissez l'histoire, je vais raconter ici, j'ai déjà raconté une fois. Bon, imagine, nous sommes les trois siècles. Rabbi Eibschitz habitait la Pologne, et il y avait toujours des très grands débats avec les curés, avec les princes, les rois. Et ils savent que le peuple d'Israël, un beau jour, vient dire le Messie vaincra le monde entier, il y aura le règne de Dieu sur terre. Alors le roi lui dit, ok, t'es très gentil, mais vous, peuple en exil, sans armée, sans rien, vraiment rien, le peuple d'Israël, il y a 300 ans en exil, ça veut dire rien, la misère. Comment vous pensez un jour vaincre le monde entier? Que le royaume de Dieu vienne sur terre? Madame Eibschitz lui dit, aucun problème. Tu veux voir? Je vais te montrer. Faisons un concours. Tu as des ministres, des princes. Faisons un concours de combat de coq. Chacun va amener son coq. Moi, je vais amener le mien. Tu verras que le mien va gagner. Le roi dit, bon, ok, viens, on va faire. Il appelle tous les ministres. Voilà, on date un tel. Amenez chacun vos coqs. Les meilleurs coqs de combat, et on verra qui va gagner. Le jour arrive, les trompettes, les cortèges, la scène, tatatatata, chaque ministre vient, sort son coq, des coqs terribles, leurs griffes cruelles, côte, etc. Et Herbert Heimlich, tout d'un coup, il sort de sa petite boîte, un petit poulet, chétif, comme ça. Ah, tout le monde rigole déjà. Et ok, les trompettes sonnent, le roi donne l'ordre qu'on commence le combat. Et hop, on les jette tous dans l'arène. Et ça commence. Les plumes, ils se déchirent, les coques se déchirent. Le petit poulet, il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher dans un petit coin, tout tremblotant comme ça, et il attend. Et l'un déchire l'autre, et l'autre déchire l'un, et à la fin, tout le monde se déchire, tous morts. Et le petit poulet, tout coup, qui sort comme ça, tout tremblotant. Voilà. Ça pourrait répondre à la question. Pourquoi Hitler et Staline font la guerre ensemble? Ça, c'est la technique de Dieu. Dieu n'a pas besoin maintenant de venir, et c'est vrai que Gog et Magog, il y aura aussi, Dieu va aussi intervenir, mais... beaucoup plus simple de s'aimer la zizanie entre eux, et vu que c'est leur entité même, la zizanie, parce qu'ils ne sont pas unis pour des raisons d'idéal altruiste, ils sont unis pour des raisons d'idéal égoïste. Un idéal égoïste, un beau jour, ok, je t'aime bien, tant qu'il n'y a pas trop, mais au bout d'un moment, chacun pour soi. Ce qui aura besoin de chacun très, très bientôt. Donc ça, on était pour, parce qu'on est parti là sur des... Donc on parlait donc du mal au niveau... son entité spirituelle, incarnée par Amalek et par tous les hommes très mauvais, et il y en a dans le monde entier. À un autre niveau, nous, personnels, on a, avant de toucher ces sphères-là qui ne nous concernent pas, on a la sphère personnelle, qui est tout simplement les pulsions physiques, notre ego, et ce qu'on amène de Touma, d'impureté sur nous, par nos mauvaises actions. Ou le manque des bonnes actions. Alors, prenons le premier, l'ego. Tout simplement, tu as en toi des pulsions normales d'orgueil qui provoquent les nerfs si ça va pas comme tu veux. Tu as des pulsions de tristesse. C'est un manque de foi, un manque d'union avec Dieu. Tu as des pulsions sexuelles. Pas besoin de faire un dessin là-dessus, tout le monde sait ce que c'est, surtout les malheureux français. Tu as des pulsions de jalousie. Pourquoi moi et pas lui? Pourquoi lui et pas moi? Comme les petits-enfants. Comme les petits-enfants. Hein, je vais raconter déjà comment on fait. Un gosse. Tu donnes une petite voiture à un gosse et pas à son frère. C'est terrible. Pourquoi lui et pas moi? Mais il se traîne, se roule par terre. Il ne peut pas baisser pendant 3 semaines. Eh bien, nous sommes tous comme ça. Nous sommes tous comme ça. Avec les petites autos, avec les grosses autos. Les grosses autos, les grosses maisons. Mais pourquoi lui et pas moi? C'est tout le monde là en lui. Profondément. Et c'est l'essence du monde, c'est comme ça. Caïn et Abel, la jalousie. C'est pas comme ça que ça part. Alors tu vas travailler sur un point. Tu mets de l'énergie sur un point. Forcément, cette énergie que tu mets dans un point, elle affaiblit ton énergie sur un autre point. Donc c'est un travail comme une guerre. Tu es le Ramatkal, tu es le chef de l'armée. Tu es l'attaque de tous les côtés. Il faut assurer l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine, le front, derrière le front, le civil. Il faut gérer partout, à la fois. Et forcément, si tu mets une pression dans un endroit, tu affaiblis les autres endroits. Donc, tu vas commencer à travailler sur, je ne sais pas moi, sur la colère. Forcément, d'autres pulsions vont se réveiller un peu plus. Tout à fait normal. Au Hachem, tu es en combat. Un homme a réussi à dire Libi Chal Bekirbi, mon cœur est vide en moi. David Ameler. Il a réussi à tuer son Yetzera. Bon, c'est un niveau énorme. On dit sur Rabbi Israël Bissalan qu'à la fin de sa vie, on peut lui faire une insulte ou un compliment, ça le touche la même chose. C'est un niveau énorme. Ça ne nous concerne pas. Tout simplement pas. Lentement, millimètre par millimètre, on ne demande pas de finir. On ne demande à personne d'être parfait. On demande à tout le monde de faire 1 millimètre en plus. Ma chère, il arrive. Est-ce que tu es comme ça? Ou comme ça? Stagner, ça n'existe pas. Si tu es comme ça, c'est-à-dire que tu es comme ça. Alors, est-ce que tu es comme ça? Et t'avances. Tu as un choix maintenant. tu es resté dans l'option inférieure, ou tu as fait un effort, tu es monté dans l'option supérieure. Et tu as un millimètre de plus, c'est tout. Donc on nous demande d'être en bataille.
Et si d'un côté je gagne un millimètre et que de l'autre j'en perds ?
Mais tu es en bataille, c'est normal. C'est en bataille, tu es en bataille. Donc au moins tu te bats, tu as gagné. Il faut comprendre que la victoire vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que la défaite. La défaite, elle est normale. La victoire, elle est anormale. Quand tu prends un vélo, et puis tu le mets sur une pente, ben, sans rien faire, ça descend. Monter, ça signifie qu'il y a eu un effort. Ben, tu dis, j'ai monté la montagne, mais j'ai redescendu de l'autre côté. Mais quand tu as monté, tu as fait un effort énorme. Tu es redescendu, tu n'as rien fait du tout. Donc l'effort fait, il est pris en considération. C'est une construction que tu as fait. Et c'est comme ça qu'on avance. Millimètre par millimètre, montagne par montagne. Le peu que tu avances, il vaut infiniment plus, ce n'est pas une façon de parler, infiniment plus que la défaite. La défaite, c'est la normalité. On ne peut pas gagner partout, nous ne sommes pas des anges. Surtout à notre époque. Je te racontais déjà une fois comment elle écrit le Rav Raté, un livre, tout ce qui est au niveau sexuel, tout ça, la Shmirat HaBrit, qui s'appelle Tarat HaKodesh, la pureté de la sainteté, un livre qu'il faut lire, mais en hébreu, c'est un livre de base. Alors lui, il dit à notre époque, on ne peut pas se battre contre les tsaras, il est trop grand. Qu'est-ce qu'on fait? On chip. Il donne un exemple, c'est comme si tu as un petit nain, et tu as un géant énorme. Nous, on est le petit nain, le géant, c'est les tsaras. Et tu es sur le stade, et tu as des millions de téléspectateurs, les anges. Et tout d'un coup, on voit le géant qui s'approche comme ça pour attraper le petit nain. Et tous les anges, ils sont en train de trembler. Qu'est-ce qui se passe? Le pauvre petit peuple d'Israël. Le petit nain qui esquive, tac, tac. Tout d'un coup, il court, hop, il monte. Et il passe le géant comme ça aux fesses. Et hop, il part en courant. Qu'est-ce qui se passe? Toute la salle éclate de rire. Et applaudit. Tuer le géant pourra jamais. Mais de temps en temps, comme ça, allez, tac, tu l'envoies. Et pof, comme ça, c'est extraordinaire. Et à notre époque, arriver à être juif aujourd'hui, à se battre, c'est énorme. Comprenez que nous sommes une génération qui voit le Mashiach. Il n'y a jamais eu de l'histoire autant de gens qui font tchouva. Hier, je vois le Rav Citruc, il a dit un truc très beau que je veux répéter ici maintenant. Il a dit que, d'après les Gaon de Vilna, on sait que il y a le 6e siècle, le 6e millénaire, correspond au livre de Dvarim, 5e livre de la Torah. Et chaque paracha correspond à un siècle de ce millénaire. Nous sommes maintenant dans le 8e siècle, 5767, nous sommes dans le 8e siècle, qui correspond à une paracha, qui en fait c'est deux parachas, c'est Nitzavim Vayelech. Là-bas, deux sujets sont traités. Le retour en terre d'Israël, et le retour d'Israël à sa Torah. Retour d'Israël sur sa terre, on peut dire que on l'a vécu, on est en train de le vivre. Et maintenant, on est en train de vivre aussi le deuxième acte, qui est le retour d'Israël à sa Torah. Et tout simplement, il faut savoir se trouver à la place où il faut se trouver. Très bien dit, c'est une citation. Il faut savoir se trouver à la place où il faut se trouver. C'est la place où on doit être maintenant. La tchouva, maintenant, nous sommes en train de vivre cela. Ça n'a jamais été de l'histoire. C'est quelque chose de grandiose. Et c'est marqué, Maïmonide dit ça dans le Tshuva, le 7e chapitre, il dit, la Torah a déjà assuré qu'à la fin de son exil, le peuple d'Israël fera Tshuva et immédiatement ils seront sauvés. D'accord, on est en plein dans le... C'est bientôt fini, Baruch Hashem. Alors, le Tshuva, il se déchaîne, c'est normal, il y a encore quelques secondes à vivre. Maintenant, quand tu marques des points, c'est le dernier sprint. Alors tu marques par-ci, par-là, et il lui donne, il y a un géant, t'es un petit nain. Tu veux le vaincre? Il y a Midrash qui dit, il y avait un roi qui a dit à son peuple, il y a une montagne, il y a un gros rocher au milieu de la route. Dégagez le rocher. On ne pourra jamais. Il dit, allez-y, avec vos petits marteaux. Enlevez. Vous allez enlever une partie, la moitié. Moi, je vais tout enlever. Enlevez le Tserara du monde, on ne pourra jamais. Il est partout, il rentre par MSS, par SMS, par onde, par Internet, par Wi-Fi, ou ce que tu veux, tu l'as partout. Tu l'as partout. Le vaincre, on ne pourra pas. Dieu pourra le vaincre. Mais il demande à nous de faire le job qu'on doit faire. Avec nos petits marteaux, on casse la pierre, et bon Dieu, il vient, bonjour, il dégage tout. Donc il ne faut pas rêver qu'on arrivera à complètement éliminer. Par contre, il faut être des bons petits artisans. Sur cela, tu réponds, Raphaël.
Ou tu dis. Quel est le degré de remise en question au quotidien pour chercher ce petit millimètre? Jusqu'à quand on doit. Vous voyez, si moi je cherche mes défauts pour pouvoir les. Pour mon etc. pour pouvoir les combattre. Jusqu'à où je dois. Est-ce que je dois donc pas aller à la racine de ces etc. parce que je suis sûr que j'arrive.
Oui. Où je dois aller? La réponse, elle est intelligemment. Ça veut dire. Savoir où on en est et quel est le millimètre suivant que je dois faire. Quelqu'un, par exemple, qui se met en colère. En colère. Alors, est-ce que la colère est jaillie à l'extérieur ou elle reste intérieure? Déjà, différence. Après, si ça reste à l'intérieur, combien de temps? La jalousie. Il y a quelqu'un qui est vert de jalousie, il ne peut pas s'empêcher de parler mal sur son prochain qui était à. Ou bien, il a juste un petit comme ça. Et puis il se dit, c'est idiot. Parce que lui, il a sa vie, moi j'ai ma vie, je ne vais pas être jaloux, chacun recevra, comme je suis, je serai, comme lui doit être, il sera. J'ai pas, ma valeur ne dépend pas de sa valeur à lui. Avec la conscience, on va arriver à... Donc la pulsion de jalousie, elle va arriver de toute façon. C'est marqué, il n'y a pas de jour qui passe sans qu'on ait une mauvaise pensée. La mauvaise pensée, que ce soit de jalousie, de fille, de n'importe quoi, elle viendra. Mais est-ce que tu l'élimines tout de suite parce que tu es en pleine conscience ou pas? Alors, il y en a un qui va s'installer dans la mauvaise pensée et commence à vivre le personnage. Et là, il y a le danger. Tu deviens jaloux, tu as une pulsion de jalousie, tu commences à la vivre. Tu as une pulsion sexuelle, tu commences à la vivre, tu es en plein film. Tu as une pulsion de, je sais pas moi, de pouvoir, d'accord? Les gens avides de pouvoir, il y en a énormément. Et tu commences à vivre cette chose-là. Et tu ne te rends même pas compte que tu es dans un film. Celui qui se rend compte que dans le film, c'est déjà énorme comme travail. Donc, il sent les pulsions, tac, il dit, qu'est-ce qui m'arrive là? Je suis en train de... Et quand on travaille là-dessus, c'est un travail fantastique. Ça, c'est le contact avec Dieu.
Mais le lendemain, c'est la même chose.
Ben oui. Tu veux arriver au paradis tout de suite?
Non, un jour, je vais réussir le pas, le lendemain.
Mais c'est un ange, c'est l'ange du mal. Tu veux comme ça, tac, tac, et terminé, il sera là. Plus tu vas grandir, plus il sera fort. Mais des niveaux plus hauts. Comme je t'ai dit, au début, tu as l'animal. Puis après, tu te travailles, tu te... Comment on appelle ça? Ardennes. Tu deviens plus sensible, tu sensibilises les choses, ça devient beaucoup plus fin. Et puis, ça se passe des choses beaucoup plus fines. Il faut faire attention, faire attention. Rabbi Sarim Saint, il a dit, il y a quelqu'un qui fait attention toute sa vie, pas jamais parler à la Shonara. Et c'est le Sarah qui le pousse à cela. Pour qu'une fois dans sa vie, il fasse un vrai à la Shonara, et tout le monde le croira. On sait, lui, s'il parle, c'est vraiment pas la Shonara. Et tout le monde le croit. C'est dangereux. Et on se bat contre un géant. Donc, la réponse, elle est, comment se battre intelligemment, en analysant ce qui se passe chez nous, le meilleur moyen, c'est s'arrêter quelques minutes par jour, de faire un bilan de la journée, de où j'en suis, qu'est-ce qui ne va pas, voir, analyser comment c'est arrivé, et c'est un travail. Rien que faire ça, normalement, tu arrives à bon port relativement vite. Ça veut dire, c'est le plus grand travail qu'il puisse y avoir, sur lequel il sera à se battre, parce que prendre du temps dans la journée, pour étudier la Gemara, pour tout ce que tu veux, tu auras le temps. Pour ça, arriver maintenant à m'arrêter où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait, à faire un tableau de soi-même avec un bilan. Et un bilan, il faut faire un bilan des deux côtés. Parce qu'en tendance, c'est un bilan négatif. Tu mets des mauvais points, mais les bons points, c'est important. Parce que si tu commences à avoir quelques pages de bilan négatif, tu...
Pourquoi je vous demandais le degré de remise en question? Je vais faire un pas, mais voilà, il me reste encore tout ça.
Alors, la réponse est là, je la répète. Là, chaque pas en avant, il vaut énormément. On a droit à une médaille.
Et si tous les jours maintenant, donc on a dit, si tous les jours je me bats contre mon Ezara, je le rends plus fort.
Non, ça te rend plus fort, c'est-à-dire que tu as vaincu une bataille. Tu as vaincu la bataille de ne pas crier quand tu t'énerves. Bon, maintenant c'est une autre bataille, pas s'énerver. Elle est beaucoup plus dure, parce que c'est un niveau qui est plus haut. C'est-à-dire que l'Ezara, quand tu montes, le niveau de bataille, il devient plus haut, c'est ça, c'est-à-dire que tu as vaincu le facile, la nouvelle épreuve elle est plus haute, tu as vaincu le Mont Blanc, maintenant tu as l'Everest, après l'Everest, plus beaucoup, mais tu as des montagnes toujours plus hautes, parce que ton potentiel est plus grand, tu es plus haut, donc on doit maintenant à abattre plus de travail.
Donc plus je fais reculer la défaite, mais plus la défaite sera grande le jour où elle arrive.
Elle n'arrivera pas dans ta chaîne, elle n'arrivera pas. Au niveau des grandes sadikim, là, ils sont déjà en bataille contre le vrai Sitra, contre le mal. Cette entité dont je ne sais pas qui nous a. Nous, mais les grandes sadikim sont déjà en bataille contre cela. sur un niveau très haut que eux, bon, avec les trucs basiques de ego, tout ça, ça va, c'est terminé chez eux. C'est, beaucoup, c'est tout à fait autre chose. Hein? Non, non, je n'ai pas dit 7. Non, j'ai dit tous les trucs basiques de Yetzirara, physique, de ego, tout ça, jalousie, sexualité, nerfs, ça, c'est terminé chez eux. Ils sont beaucoup, une bataille beaucoup plus haute. Chapetetchi, le faux messie, il est tombé parce qu'il était allé très très haut. Il s'est battu contre Rabbi Yochanan. Kohen Gadol, pendant 80 ans, il rentrait dans le Saint des Saints. Tout d'un coup, il a tourné Kazakh. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été attrapé par le Sitra Achra. C'est des batailles. Mais ça, c'est. Alors, quelqu'un qui est au niveau de se battre contre ces choses-là, et ça, t'en fais pas. Mon Dieu, il s'occupe de toi. Tu vainques certaines batailles, tu en auras d'autres qui vont venir parce que tu es beaucoup plus grand. Donc, tu as commencé comme soldat simple à l'armée, après tu es devenu le plus grand tombeur d'avions de chasse de l'armée. T'as un autre job qu'un soldat simple. D'un côté, tes victoires sont beaucoup plus grandes, les dangers sont aussi beaucoup plus grands. Mais t'es fait pour, t'es un bon pilote. Comment on apprend à piloter? D'abord dans le sol, avec des simulateurs de vol. Après en Piper. Après, sur un petit avion réaction comme ça, qui... Ouais, c'est ce qu'on fait ici. Là, on est dans les Piper, ici, à l'Eshiva. C'est bon? Bientôt
l'F-16. Vous mettez des petites chutes ou des grosses chutes?
À certains qui mettent des petites chutes. Ah, une grosse chute, bien sûr. Une grosse chute, c'est très dangereux.
Il faut reconnaître son niveau, il ne faut pas croire qu'on est...
Ouais, je dis, on est des Piper. Et lentement, hein, on te prend une hélice, deux hélices, comme lentement.
Est-ce que le mal qu'on fait, il peut apporter du bien? Il peut avoir des conséquences bonnes.
Qu'en face du mal, ça amène des conséquences bonnes. Oui, c'est-à-dire que si on fait tchouva, alors rétroactivement, le fait que tu es tombé, il est bien, parce que tu remontes plus que ce que tu étais. Tu es beaucoup plus solide. Mais c'est pas a priori qu'on dira, va faire le mal. Parce que si tu fais le mal, tu ne vas déjà plus jamais revenir. Ok, monsieur, je suis désolé, on doit s'arrêter. Bah, ou Adonai, l'homme, mais...